pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. Des orques portent des saumons morts comme chapeau et on ne sait pas pourquoi. Un texte de Camille Lopez, paru le 10 décembre 2024 dans Les As de l'info. Tous les goûts sont dans la mer. Aux As de l'info, on ne juge pas les choix vestimentaires des humains ni des animaux. Mais quand on a entendu parler d'un mystère qui intrigue tout le monde, même les scientifiques, on a un peu sursauté. C'est qu'en octobre, des orques ont été observés en train de porter sur leur tête un saumon mort. Drôle de chapeau, non? Voici ce qu'on sait sur cette étrange histoire. Comme un chapeau dans l'eau. Tout a commencé en 1987, quand une femelle orque, on peut dire aussi épaulard, a été observée aux États-Unis alors qu'elle portait un saumon mort sur sa tête. Quelques jours plus tard, ses amis orques ont copié son look. Deux d'entre eux portaient à leur tour un saumon mort comme chapeau. Mais la tendance n'a pas duré très longtemps. Après un an, plus aucun autre mammifère marin n'a été vu avec cette coiffe. Le chapeau saumon mort semblait passer de mode. Jusqu'en octobre dernier. Récemment, plusieurs orques ont été vus au large de l'État de Washington, aux États-Unis, avec cet accessoire gluant et probablement puant sur la tête. Alors, pourquoi est-ce que cette drôle de mode refait surface? C'est ce que les scientifiques essaient de comprendre. Un chapeau qui fait des vagues. Pour le moment, les experts ne savent pas exactement pourquoi des orques se promènent ou nagent avec des saumons morts sur la tête, mais certains se sont penchés sur la question. Voici quelques théories. Pour flasher, selon un spécialiste des mammifères marins interrogé par Radio-Canada, c'est peut-être pour impressionner un autre membre, ou peut-être aime-t-il simplement l'odeur du poisson mort. Miam! Trop de nourriture. Le saumon est l'une des principales sources de nourriture des orques. Selon certains scientifiques, les orques pourraient adopter ce comportement lorsqu'ils en ont trop chassé. Ils placeraient alors leur proie sur leur tête pour avoir une collation pour plus tard lorsqu'ils auront un petit creux. L'heure du jeu. On te répète probablement souvent que tu ne dois pas jouer avec ta nourriture. Eh bien, selon des experts interviewés par Radio-Canada, les orques échappent à cette règle. Selon eux, ce comportement est simplement un moyen de s'amuser. Les orques seront observés dans les prochains mois pour voir s'ils continuent à porter leur chapeau au saumon mort. Les scientifiques espèrent comprendre, une fois pour toutes, ce qui les pousse à adopter cette mode. Mais tu sais ce qu'on dit, chacun ses goûts.
Ils réclament une loi pour protéger les vers de terre. Un texte de Sophie Payeur, publié le 28 novembre 2024 sur Les As de l'info. En France, un agronome aide tellement les vers de terre qu'il milite depuis 10 ans pour créer une loi qui les protégerait. Selon lui, la nature, le climat et les humains s'en porteraient bien mieux. Étrange, tu penses? Lis cet article et tu comprendras son combat. Indispensable vers de terre. On ne les voit pas beaucoup, mais le travail qu'ils font sous nos pieds est immense et essentiel. En creusant dans le sol des petits tunnels, les vers de terre créent de l'espace pour que la pluie et l'air se rendent jusqu'aux racines des plantes et des arbres. Ce n'est pas tout. Les vers décomposent les nutriments afin que les végétaux puissent s'en nourrir. En plus, en faisant caca, les vers enrichissent la terre. Bref, un potager où il y a des vers, c'est un potager productif. Sans eux, la terre ne pourrait simplement pas nourrir les humains. À la base de la chaîne alimentaire, les vers de terre servent aussi de nourriture à plusieurs animaux, dont les oiseaux, les grenouilles, les rongeurs et les serpents. Bref, les vers de terre sont nos amis. Vers de terre recherchés. Le Français Christophe Gatineau a appris à connaître les vers de terre à travers son travail en agriculture. Il a constaté à quel point ils jouent plusieurs rôles importants dans la nature, mais il s'inquiète de les voir disparaître. Dans le monde, il y a entre 5000 et 7000 espèces de vers de terre. Au Québec, il y en aurait 19. Mais selon Christophe Gatineau, 90% des vers auraient disparu dans certaines régions du monde. Ce qui les menace. Leur maison, qui est le sol, est menacée par les changements climatiques et l'agriculture intensive. Les vers sont très sensibles à la chaleur. De plus, les grandes quantités de pesticides et d'engrais chimiques utilisés en agriculture industrielle bouleversent l'écosystème des sols. Cette agriculture émet 12% des gaz à effet de serre, GES, responsables du réchauffement climatique. En mission. Christophe Gatineau est devenu le plus grand défenseur des vers de terre. En 2018, il a écrit le livre « Éloge du ver de terre » et en 2024, il a fondé la ligne de protection vers les vers de terre. En 2018, il a écrit le livre « Éloge du ver de terre » et en 2024, il a fondé la ligne de protection des vers de terre. Une centaine de citoyens de tous les milieux en sont membres aujourd'hui. Au printemps dernier, Christophe Gatineau a écrit à la ministre française de l'Agriculture afin que son gouvernement crée une loi pour protéger les vers de terre. Cette loi permettrait d'amasser plus d'informations sur les espèces de vers et sur l'impact des produits chimiques sur leur nombre. Elle obligerait aussi les agriculteurs à réduire l'usage de ces produits et les inciterait à se tourner vers des techniques plus respectueuses du sol. Car moins les fermiers travaillent la terre, moins ils dérangent l'habitat des vers. Savais-tu qu'au Canada, il y a aussi des efforts pour protéger les vers de terre? Le gouvernement a mis en place le programme d'éducation scientifique Attention Vert. Le but est d'aider les scientifiques à déterminer combien d'espèces de vers de terre vivent au Canada et à quels endroits. Toi aussi, tu peux participer. Il faut se rendre sur le site d'Attention Vert et se créer un compte pour enregistrer ses observations. Toi, penses-tu qu'une loi pour protéger les vers de terre est une idée farfelue? Je pense pas.
L'oreille absolue. Cadeau ou fardeau? Un texte de la rédaction paru dans le numéro 111 du magazine Curium. Le ronronnement du frigo... C'est un ré. Et ce digne de notification, un si bémol. Certaines personnes arrivent à identifier les notes derrière tous les sons. Quel est leur secret? Une condition rare. L'oreille absolue. À elle seule, cette expression évoque un super pouvoir, un don prodigieux. Les personnes qui la possèdent sont capables d'identifier les notes musicales entendues de manière automatique, sans avoir recours à une note de référence. Dans le milieu musical, la grande majorité des gens ont une oreille relative, c'est-à-dire qu'ils parviennent à identifier une note à partir d'une autre note de référence. Seule une minorité, moins de 10%, possède l'oreille absolue. En d'autres mots, si un pianiste joue un do et qu'ensuite il appuie sur une autre touche, une musicienne entraînée identifiera cette deuxième note grâce au premier point de référence. Elle a une oreille relative. Une personne avec l'oreille absolue n'aura pas besoin de point de comparaison. Le nom des notes lui vient automatiquement en tête. Innée ou acquise? L'oreille absolue aurait un caractère génétique. Elle est souvent présente au sein d'une même famille. Ce n'est pas l'appareil auditif en soi qui est particulier, mais plutôt le cerveau, précise la neuropsychologue Chanel Marion Saintonge, spécialisée en douance musicale. Cette morphologie particulière du cerveau s'observe notamment dans le cortex auditif et une région appelée planum temporal. Un apprentissage précoce et soutenu de la musique favoriserait aussi le développement de l'oreille absolue, sans toutefois le garantir. Il serait d'ailleurs essentiel d'avoir appris à lire la musique. L'association son-note ne se ferait pas aussi facilement chez les autodidactes qui jouent à l'oreille. Absolue ou presque. Il n'existe pas un seul type d'oreille absolue. Certaines personnes sont capables de distinguer la fréquence de chaque petit bruit comme un système d'alarme qui sonne en mi-do. D'autres arrivent à reconnaître une seule fréquence, le 440 Hz, soit la note de référence pour accorder les instruments. La. L'oreille absolue se limite parfois au son d'un instrument en particulier. Un joueur de flûte reconnaîtra ainsi spontanément les notes émises de son instrument, mais pas celles de l'oiseau qui chante dehors. Un coup de pouce du cerveau. Ludovic le Sage Hinze est musicien professionnel et professeur au Conservatoire de musique de Rimouski. Il n'a pas l'oreille absolue, mais il accompagne des élèves qui l'ont. Le gros avantage que je remarque, c'est qu'elle aide à mémoriser les pièces. Pour la pianiste professionnelle Marisol Lafrenière, l'oreille absolue est synonyme de liberté. Cette faculté me permet d'improviser sans trop recourir aux notes théoriques. Une chef d'orchestre, avec cette aptitude, pourra entendre une partition musicale dans sa tête et dans la bonne tonalité. Et dans une chorale, il est pratique d'avoir un membre doté de l'oreille absolue pour donner subtilement la note de départ. Dans l'absolu, rien n'est parfait. Pour certaines personnes, avoir l'oreille absolue n'apporte pas que du positif. Isabelle Perrette, guitariste et sommité dans le domaine du cerveau musical, comprend mal l'engouement autour de cette aptitude. Au lieu d'apprécier pleinement une pièce musicale, son cerveau associe spontanément chaque son à un nom de note. Quand j'écoute un morceau de guitare, j'ai aussitôt dans la tête ce code stupide. Do, si, sol, do, etc. C'est irrépressible. C'est surprenant. L'oreille absolue peut finir par se désaccorder avec l'âge. Une équipe de recherche californienne a observé que plus la personne était âgée, moins elle parvenait à identifier correctement la note jouée. Elle l'aperçoit plus aiguë qu'elle ne l'est. L'oreille absolue n'est donc ni acquise pour la vie, ni miraculeuse, mais elle reste une faculté franchement impressionnante. Mozart avait l'oreille absolue. Mais ce n'est pas le cas de tous les compositeurs classiques. Ski, patin, les sports d'hiver vont-ils disparaître? Un texte de Sophie Payeur, paru le 5 décembre 2024 dans Les As de l'Info. La Coupe du monde de ski alpin féminin de Mont-Tremblant vient d'être annulée, faute de neige. Combien d'autres événements sportifs tomberont à l'eau cet hiver? Sportifs et scientifiques font équipe pour trouver des solutions devant la difficile épreuve du réchauffement planétaire. Que s'est-il passé? La Coupe du monde de ski alpin féminin devait se tenir les 7 et 8 décembre à la station de ski Tremblant dans les Laurentides. On y attendait 72 skieuses parmi les meilleures au monde, ainsi que 15 000 spectateurs. Mais une semaine avant la coupe, les organisateurs ont dû prendre une décision très difficile. Tout annuler. La raison? Pas assez de neige pour tenir la compétition. Comme tu peux t'en douter, les athlètes étaient très déçus. Mais pourquoi la station de ski n'a-t-elle pas tout simplement fabriqué de la neige artificielle, te demandes-tu? il n'y a pas eu assez de temps froid ces derniers jours pour permettre aux canons à neige d'en produire en quantité suffisante. La situation dans le monde. C'est loin d'être le seul événement annulé à cause du manque de neige. L'an dernier, 26 compétitions de ski alpin, de ski de fond ou de planche à neige n'ont pas eu lieu à cause du climat un peu partout dans le monde. Cela préoccupe toute la planète sportive. Selon le Comité olympique international, il y a de moins en moins de pays capables d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver à cause du manque de froid. D'ici 2040, il ne seront plus que 10 pays. Ouf! Les climatologues, eux, prévoient que certains sports pourraient même disparaître car les coûts pour les pratiquer deviendront trop élevés. Par exemple, fabriquer de la neige, ça coûte très cher. Cela se reflète directement dans les prix des billets de ski alpin qui sont en hausse depuis 20 ans. Il faut aussi penser à la sécurité. Pas question, par exemple, d'envoyer des gens patiner sur une glace trop mince qui pourrait se rompre. C'est la raison pour laquelle la ville de Joliette a mis fin au patinage sur la rivière L'Assomption, une tradition pourtant très appréciée de la population. Tout n'est pas perdu. En octobre, la Fédération internationale de ski et de snowboard a annoncé qu'elle s'associait à l'Organisation météorologique mondiale, une branche des Nations unies. Ensemble, elles veulent renforcer le dialogue entre les sportifs et les scientifiques pour trouver des façons de maintenir les sports d'hiver. De leur côté, les scientifiques du climat insistent. Il faut continuer à faire du sport, hiver comme été. Le défi, c'est de s'adapter. Oui, les sports d'hiver pourront continuer d'être pratiqués, mais cela coûtera cher. Les stations de ski, par exemple, devront prévoir plus de canons à neige et réaménager leurs pistes. Pour le patin, il faudra peut-être compter sur les patinoires intérieures seulement. Surtout, il faut réduire nos gaz à effet de serre qui causent le réchauffement. Et toi, quelle est ton activité d'hiver préférée? Il est une fois, Sergueï, 7 ans, génie de l'informatique. Un texte de Frédéric Lavoie paru le 6 décembre 2024 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, un petit garçon si doué en informatique qu'il s'est fait offrir un emploi à l'âge de 7 ans. Tout a commencé quand Sergueï avait 5 ans. Ses parents avaient inscrit sa grande sœur à des cours de programmation informatique en ligne. Durant les premières leçons, toute la famille s'asseyait devant l'ordinateur pour apprendre. Quand les enfants ne comprenaient pas quelque chose, les parents leur expliquaient. Au bout d'un mois, Sergueï, qui écoutait toujours très attentivement, n'avait plus besoin d'explications supplémentaires. Et après 2 mois, les rôles étaient carrément inversés. C'est Sergueï, désormais, qui expliquait la programmation informatique au reste de la famille. Sergueï n'allait pas encore à l'école à l'époque, mais il savait déjà lire et compter. Il jouait aussi très bien du piano et aux échecs. Mais la programmation informatique, aussi appelée codage, est devenue sa nouvelle passion. Sergueï a commencé par programmer des logiciels simples, comme une calculatrice ou un réveil matin. Mais les défis qu'il se lançait étaient de plus en plus difficiles. Chaque fois, il expliquait à sa famille ce qu'il avait réussi à accomplir. Ses parents et ses sœurs n'avaient toutefois pas toujours le temps et l'envie de l'écouter. Sergueï a donc décidé de créer une chaîne YouTube pour montrer toutes les étapes de la programmation à des gens qui seraient vraiment intéressés. Au fil du temps, de plus en plus de gens se sont mis à regarder les vidéos de Sergueï. Ses centaines d'abonnés sont devenus des milliers. 2 ans après la création de la chaîne, le patron d'une entreprise informatique est tombé sur les vidéos de Sergueï. Igor a tout de suite perçu le génie de Sergueï. Il a aussi réalisé une chose. Un enfant est parfois meilleur qu'un adulte pour expliquer des tâches compliquées comme la programmation informatique. Igor a donc écrit aux parents de Sergueï avec une proposition. Il offrait un emploi à Sergueï dans son entreprise, mais dans 7 ans seulement, car la loi ne l'autorise pas à embaucher quelqu'un de moins de 14 ans. Sergueï a été très honoré de recevoir cette proposition. Cela lui a prouvé que son travail était apprécié même par les spécialistes et que les enfants peuvent parfois être de meilleurs profs que les adultes. Cette histoire est bien vraie. Sergueï Lapine habite à Saint-Pétersbourg, en Russie. Récemment, il a reçu une offre d'emploi de la compagnie informatique Pro 32. En attendant de pouvoir l'embaucher officiellement, l'entreprise veut déjà trouver un moyen de collaborer avec Sergueï. Et toi, quelle tâche d'adulte sais-tu mieux faire que les adultes? La mode autochtone en vedette à Vancouver. Un texte de Clémence Tessier, La Liberté, paru le 7 décembre 2024 dans les As de l'Info. Tissus colorés, motifs de toutes sortes et créations uniques étaient à l'honneur du 19 au 23 novembre dernier à Vancouver. Pour quelle occasion? La Semaine de la mode autochtone. C'est un événement qui célèbre la créativité, la culture et le talent des stylistes autochtones d'Amérique du Nord. Voici ce qu'il faut savoir sur cette semaine haute en couleurs. Chaque année, depuis 2017, la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, accueille des créateurs de mode autochtones venant d'un peu partout au Canada et aux États-Unis. En venant présenter leurs vêtements, ils viennent aussi parler de leur histoire. Cette année, près de 6000 personnes ont participé à l'événement. Cette semaine de la mode n'est pas seulement importante pour les communautés autochtones. Elle l'est aussi pour les communautés environnantes, pour pouvoir sensibiliser les gens à la culture autochtone à travers la mode et l'art, a expliqué Caroline Phelps, la co-directrice de l'événement, à un journaliste de Radio-Canada. Partage et sensibilisation. La semaine de la mode autochtone a bien reflété ses valeurs en débutant avec un défilé de robes rouges. Pour les Premières Nations, la robe rouge est devenue un symbole important qui rappelle les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On estime que, depuis 1980, des milliers d'entre elles ont connu ce triste sort. Avant 2017, je n'avais jamais vraiment participé à un événement de robe rouge. J'ai alors décidé d'en créer un pour honorer la mémoire de nos proches disparus et assassinés. C'est quelque chose qui se produit souvent là d'où je viens, a confié la réalisatrice et créatrice du défilé, Jolene Mitten, à Radio-Canada. Les mannequins, vêtus de robes rouges, ont défilé devant près de 2000 personnes, toutes vêtues de rouge, elles aussi. Une semaine bien remplie. Au courant de la semaine, 4 défilés ont eu lieu autour du thème du feu. 33 designers ont présenté leurs créations et une 40aine d'artisans ont participé à un marché. Et toi, si tu avais à organiser un défilé de mode, quel en serait le thème? Beaumier contre Fraser. Le combat des sapins. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 9 décembre 2024 dans les As de l'Info. Les effets des changements climatiques s'observent partout. Même notre beau sapin roi des forêts est menacé par les étés plus secs. Le sapin baumier, l'espèce préférée des Québécois pour Noël, perd du terrain. Les cultivateurs se tournent de plus en plus vers le sapin Fraser. Dans les pépinières, on assiste à un duel. Baumier contre Fraser. Je te les présente. Dans le coin gauche, le parfumé Baumier. Le sapin Baumier pousse naturellement dans les forêts du Québec. On le reconnaît à son beau vert profond, mais surtout à son parfum. Il sent le sapin, eh oui. Cette odeur unique et fraîche de résine et de verre. C'est lui qui a longtemps trôné fièrement dans la plupart des salons. Par contre, il sèche vite une fois qu'il est coupé. Bonjour les aiguilles. Malheureusement, notre sapin Baumier a de la misère avec les étés de plus en plus chauds et secs. S'il manque d'eau, il peut changer de couleur et même mourir. Dans le coin droit, le robuste Fraser. Originaire des montagnes de la Caroline du Nord et du Tennessee aux États-Unis, le sapin Fraser est en voie de devenir le préféré des producteurs de sapins. Il résiste beaucoup plus à la sécheresse que le sapin Baumier. Il conserve aussi ses aiguilles plus longtemps une fois coupées. Ses branches raides supportent mieux les guirlandes, les lumières et autres décorations. Mais il sent nettement moins et il coûte plus cher. Il est aussi un peu plus difficile à implanter dans les sols argileux du Québec. M. Fraser préfère le sable. Malgré tout, à l'heure actuelle, le sapin Fraser gagne du terrain. Chez certains producteurs, c'est maintenant l'espèce qu'ils priorisent. Une course contre la montre. Les bouleversements climatiques compliquent aussi la vie des producteurs au moment de la récolte. Pour avoir un sapin qui reste beau longtemps, il faut le couper après quelques grosses gelées. Mais il fait froid de plus en plus tard et les gens achètent leur sapin de plus en plus tôt. Le temps des fêtes est précédé d'une course essoufflante pour les cultivateurs de sapins. Le savais-tu? Le Québec est la province qui produit et vend le plus d'arbres de Noël au Canada. Près de 2,8 millions de sapins ont été vendus l'an dernier. Chez toi, avez-vous un sapin de Noël naturel ou artificiel? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.